19h-20h, les informés, présentés par Adil Farkan sur Beurre FM.
Eh bien, bonsoir chers amis auditeurs et auditrices, vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre, quel plaisir, vous le savez, c'est une grande famille. Alors les informés, on ne change pas évidemment la mécanique, on commente, on analyse et on décrypte l'actualité. Une semaine, vous savez qu'il y en a qui attendent les vacances de Noël, impatiemment, oui. Patience, vous avez encore toute cette semaine à tenir, chers amis, surtout les écoliers. Bon courage à vous et bonne fin de semaine. Au menu, pour vous accompagner, au sommaire de cette émission des informés, eh bien, plusieurs sujets qui ont retenu notre attention aujourd'hui, des débatteurs, influenceurs qui viennent confronter leur point de vue. Alors, on va aller s'intéresser tout d'abord avec cette loi d'immigration. En ce moment même, qui est en plein débat, un accord va-t-il se faire, hein ? C'est toute la question qui se pose. On en parlera. Puis une quinzaine de députés de la majorité présidentielle qui pourraient voter contre le texte de Gérald Darmanin. Que se passe-t-il auprès de la Macronie ? On en parlera. Et puis on parlera aussi, vous savez, de ce sujet des Yvelines. Parce que moi, il y a quelque chose qui me préoccupe particulièrement, c'est-à-dire que on a souvent, vous savez quoi, des incidents ou des faits divers régulièrement dans les collèges, dans les lycées. Et puis là, il s'agit d'un élève d'un lycée du Chesnay, Roquencourt, dans les Yvelines, qui a été interpellé à son domicile. C'était hier, donc précisément. Il a posté, je ne sais pas ce qu'il lui a pris, il a posté un message de menace de mort envers son professeur de mathématiques. Et il dit, j'ouvre les guillemets, c'est un putain d'intello que personne n'aime. Je referme les guillemets. Clochette. Ah. Bon, on va voir. Je ne sais pas ce qui lui est arrivé, ce lycéen. Mais moi, ce qui m'intéresse, effectivement, c'est est-ce qu'on peut parler encore d'autorité au sein de l'éducation nationale et surtout des parents. Nous nous intéresserons aussi, vous savez, de cette guerre. Alors avec un angle très différent ce soir, parce que Human Rights Watch accuse Israël d'affamer délibérément des civils de Gaza. Clochette aussi. Ouais. C'est terrible ce qui se passe. Hein. On en parlera et on prendra le temps d'en parler avec les débattants influenceurs. Et puis vous, 01 53 48 3000, comme chaque soir, vous êtes très nombreux à nous appeler au standard. Solal vous accueille avec grand plaisir. Vous le savez, 01 53 48 3000, c'est votre numéro. Vous nous appelez, vous passez en direct et en priorité pendant, durant toute l'émission. Nous parlerons de ces, vous choisissez parmi les quatre sujets que je vais vous soumettre, évidemment, en direct. Et c'est parti, c'est tout de suite, c'est maintenant, mais surtout, vous le savez, en toute liberté d'expression. Et je voulais exprimer particulièrement avant de démarrer cette émission et de la lancer. Il y a eu un petit incident. On a reçu Louis Boyard, le député LFI, vendredi dernier. Voilà, on a mis face à lui des contradicteurs. Il se trouve que voilà, les choses ont pris une autre tournure. Je tiens à dire d'ailleurs ceux qui ont posé les questions, puisqu'on fait l'amalgame partout dans les médias mainstream, que évidemment ceux qui étaient en face du député Louis Boyard de LFI, qui représentait donc LFI, et bien ceux qui lui ont posé les questions, ce ne sont pas des journalistes de la radio Beurre FM. C'était simplement des contradicteurs débatteurs qui sont venus confronter les points de vue, tout simplement, les opinions face aux députés LFI. Voilà. Il fallait rectifier le tir, il fallait repréciser un certain nombre de choses. Et Louis Boyard est toujours le bienvenu, évidemment, et tous les autres, ici sur l'antenne de Beurre FM, dans Les Informés. C'est parti, c'est tout de suite, c'est maintenant, et en toute liberté d'expression.
Les Informés. Les Informés. Le face-à-face.
Le face-à-face avec le député suppléant, mais également aussi un élu, c'est Farid Aïd. Bonjour Farid Aïd.
Bonjour Adil et bonjour à tous les auditeurs et
ça
auditrices.
Ça va, au sein de votre ville ?
Ça va, on fait aller.
Ouais, Pierre Fitte.
C'est un peu compliqué en ce moment, mais
pourquoi
ça va, c'est la fin de l'année. Bah, c'est
la
difficile,
fin de
l'inflation.
C'est vrai, vous avez raison.
On en parlait tout à l'heure, l'inflation, oui. Les gens ont du mal à partir en vacances, ont du mal à manger,
vrai, terrible,
ont du mal à se loger, etc. C'est vrai, ouais. C'est vraiment compliqué. Hein. On ouais. se le disait ça depuis des semaines et des semaines. Et ben, ça se confirme de jour en jour.
Ça se confirme de jour en jour. Exact. Ouais. Ouais, c'est vrai. Vous avez raison de le souligner. Et ça m'a frappé puisque beaucoup en parlent à l'antenne ici. Mais on aura l'occasion d'en reparler. Merwan Mioubi, bonjour, journaliste.
Bonsoir, Adil.
Comment ça va?
Ça va très bien.
Très bien. Je suis heureux de vous accueillir aussi, Ergun Toparslan, pardonnez-moi. En plus, là, c'est même pas une question de première. Je sais pas pourquoi j'ai trébuché, alors que je le dis tout le temps facilement. Comment ça va?
Il y a trop de consonnes, c'est
pour ça. Non, même pas. Ça va, franchement, non, j'ai aucun problème avec ça. Oui, très bien. Vous êtes le vice-président et le porte-parole de Terre de Progrès.
Exactement.
Qui le porte d'ailleurs? Rappelez-nous le Terre
Olivier
de Progrès.
Dussopt.
C'est Dussopt.
Hein. Ouais, ouais. Le ministre du Travail.
Le ministre du Travail d'ailleurs.
Exactement.
Il y a du boulot.
Je suis désolé.
On aura plus.
Vous avez été candidat aussi.
Oui, qu'on est dans le législatif en Meurthe-et-Moselle.
Vous reviendrez, je pense.
On verra, de quoi est fait l'avenir.
Un élu de Saint-Germain-les-Arpajons, ouais. Un républicain. Bon. C'est Rudy Casi, comment ça va?
Bien.
Tout va bien?
Bah oui, ça va, et vous, Adil?
Oui, très bien, ça fait plaisir de vous retrouver.
Ouais, ça fait un petit moment, ouais.
Allez, messieurs, direction l'Assemblée, direction le Sénat, direction tout simplement cette commission mixte paritaire qui se tient en ce moment même. C'est parti pour de longues heures, jusqu'à tard cette nuit. Saurons-nous évidemment à quelle sauce va-t-elle être mangée, cette loi de l'immigration? Tiens, justement, je vais m'adresser à Ergun pour planter un peu le décor. Qu'est-ce qui se passe en ce moment concernant la loi immigration? Est-ce que vous pensez qu'il va y avoir une entente sur ce texte qui se tient en ce moment même et surtout les tractations qui sont en train de se faire? Quels sont les différentes sons de cloche que vous avez, Ergun?
Alors les sons de cloche sont...
Et en plus d'être le porte-parole de Renaissance, il me semble.
Ah ouais, donc c'est qu'on... La commission mixte paritaire devrait aboutir à un accord sur un texte qui sera présenté. Plus durci, donc alors on va dire, ça dépend d'où vous venez. Si vous regardez par rapport au texte qui est sorti de la commission des lois de l'Assemblée nationale, il sera plus durci, mais par rapport au texte qui sort du Sénat, il sera moins durci.
Tout ça pour ça,
mais tout ça, c'est un peu les conséquences du drame qu'on a connu la semaine dernière à l'Assemblée nationale avec cette motion de rejet. Ouais. Il était certain que si on n'allait pas vers le débat, on se retrouverait dans une situation où ce serait le texte du Sénat qui viendrait à la commission mixte paritaire. Et maintenant, la responsabilité, c'est de savoir est-ce qu'on essaie de chercher un accord, une majorité dans cette commission mixte paritaire pour ensuite revenir à l'Assemblée nationale avec un nouveau texte et le soumettre au vote des députés. Donc, l'étape de la commission mixte paritaire devrait aboutir, même si une suspension rapide, parce qu'il y a eu je pense quelques soucis dans le camp des Républicains. Mais en tout état de cause, il y a un texte qui devrait être présenté aux députés dès demain et qui sera soumis au vote. Par contre, pour le vote des députés, il est certain qu'il y a certains sons de cloche, notamment pour les personnes qui sont issues de l'aile gauche de la majorité présidentielle où il y a des sujets de réticence. Il y avait certaines...
Ça tombe bien, j'ai sous les yeux justement les points de négociation. Il y a l'aide donc médicale, il y a cette fameuse caution pour les étudiants, il y a notamment aussi la régularisation des travailleurs étrangers dans les métiers en tension, la déchéance de nationalité aussi pour tout les binationaux. Tout ça, évidemment, laisse sous-entendre que ça peut encore provoquer un autre débat. Hein. Vous le savez, ça aussi. Hein.
Oui, il y a surtout le sujet, au sein de la majorité présidentielle, le sujet des allocations familiales qui sont conditionnées à tant de présence sur le terrain, donc qui irritent et qui dérangent pas mal de personnes, dont certains sont dans le rang. Donc, à voir ce qu'il en sort. Au début, on parlait d'un délai de 5 ans qu'avaient proposé les Républicains pour commencer à toucher les allocations familiales. Donc, en fait, il fallait déjà résider 5 ans en France pour commencer à toucher les allocations familiales. Apparemment, il y aurait une proposition avec des profils qui travaillerait pour ceux qui travaillent, ça serait 2 ans et demi, et pour ceux qui travaillent pas, ça serait 5 ans.
C'est Retailleau qui a fait cette
En tout état de cause, ça pose quelques soucis, notamment sur le fond et sur des personnes qui sont engagées, notamment contre la lutte contre les inégalités et pour la justice sociale.
Marouane Mehoubi, qu'est-ce qui vous déplaît là? Vous le regardez
Non, absolument pas. Non, j'écoute.
Vous
regardez beaucoup.
Vous avez l'air perplexe.
J'ai simplement l'impression de.
Je vais vous dire ce que j'ai lu sur votre visage, moi. Foutage de gueule.
Non.
Clochette. C'est ça que j'ai.
J'ai les informés, on a quand même du respect pour nos interlocuteurs. Non, mais c'est vrai que ça sonne vraiment comme un texte de loi qui est simplement là pour contenter la droite. Et de toute façon, je comprends même pas encore pourquoi Darmanin est là et quel est l'intérêt de ce texte, en sachant très bien que c'est simplement pour habiter quelque part l'espace médiatique et en aucun cas pour faire quelque chose de sérieux. Les frontières et l'immigration, ça se joue à l'échelle européenne, malheureusement. Justement. Donc du coup, il faut pouvoir gérer ça au niveau européen, au niveau national. De toute façon, il n'y a aucune marge de manœuvre. Alors, quel est l'intérêt de tout ce brouhaha pour ça?
Justement, il y a
et ensuite, je redonne la parole à... Évidemment, je distribue la parole.
Récemment, de l'IFOP, me semble-t-il, qui dit que justement, par rapport à l'élection européenne, pour 46% des Français, les questions d'immigration vont jouer fortement sur l'issue du scrutin.
Bien sûr.
50% pour le pouvoir d'achat aussi.
Mais c'est à Bruxelles que ça se joue. Ça ne se joue pas à l'Assemblée nationale, malheureusement. Donc, pourquoi faire autant de spectacles
Ce que je veux dire par là, c'est que si les Français pensent que ça devient un sujet, ça devient aussi un sujet pour les politiques en France. Donc ça veut dire que c'est pas un sujet dont on peut penser qu'on peut l'écarter en fait d'un revers de la main. Ce qui ne veut pas dire qu'en l'occurrence un projet de loi sur l'immigration doit forcément être un projet de loi qui clive la France, mais à mon avis, il doit y avoir un consensus qui doit être trouvé, parce que d'une part, c'est une problématique du point de vue des Français, comme la sécurité. 45% des Français pensent qu'il y a aussi un sujet sur la sécurité. de façon égale à la hausse des prix. C'est vrai qu'il y a ces deux sujets, sécurité et immigration, hausse des prix et pouvoir d'achat, qui sont une préoccupation
des Français. Bien sûr, mais le levier est économique.
Mais à mon avis, sur la question de l'immigration, oui, c'est sûr qu'il y a un combat politique qui s'engage là-dessus, déjà parce que ça intéresse quand même les Français, et aussi parce qu'il y a un sujet...
Et vous avez raison de rappeler ce sondage, c'est vrai. Les Français veulent réguler cette, évidemment, immigration.
Oui, tout à fait. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'à l'Assemblée nationale, il y a ces débats qui s'engagent, avec évidemment une lutte politique en arrière-plan pour dominer, on va dire, l'hémicycle, puisque la majorité actuelle ne bénéficie que d'une majorité relative, c'est une réalité. Et pour la première fois, je crois, en plus d'une 15 ans à peu près, il n'y avait pas eu, en fait, une motion de censure qui passe, en fait, à l'Assemblée nationale.
Farid, attendez, il faut que j'entende aussi notre communiste.
Ouais, non, parce que là, franchement, depuis des semaines et des mois, la majorité présidentielle, la droite française, où je pose maintenant des questions, parce que moi j'avais du respect pour cette droite française.
Alors vous les avez en face de vous, donc adressez-vous aussi.
Qui est de moins en moins, pour moi, la droite républicaine et l'extrême droite. Ils courent, Renaissance, et la droite court après Marine Le Pen. C'est elle qui joue le tempo. Depuis des semaines, depuis des mois, on parle de cette loi immigration. Comme si qu'il n'y avait que ça en France comme problématique. Il y a l'inflation, il y a plein de choses, etc. On parle que de ça. Adil, tout le monde en parle des sondages. Mais pourquoi Renaissance et le gouvernement n'a pas respecté quand il y avait aussi un sondage contre la réforme des retraites, où il y avait une majorité de Françaises et des Français étaient contre cette réforme des retraites. Ah là, ils n'ont pas parlé des sondages, là. Là, ils parlent
Monsieur
des sondages.
Monsieur le porte-parole de Renaissance, Hervé Thor passe là. Hervé Thor passe là.
Quand c'est les arrangements, c'est pour ça que je pense. Je termine.
Vous avez raison, vous avez raison.
Je termine, Adil, juste pour dire que cette loi immigration, elle a été rejetée. Elle a été rejetée même par LR. Normalement, cette loi, elle ne doit plus exister. Darmanin, en même temps, il doit démissionner.
Eh ben, on parlera du remaniement.
Démissionne,
oui,
il se dit qu'on reste encore responsable.
On va remettre un peu d'ordre, s'il vous plaît. Parce que Farid, évidemment, Aïd soulève. Il s'intéresse, évidemment, il vous interpelle, vous deux, notamment vous, Ergun Toparslan. Je vous écoute.
Alors sur le fait que moi je suis pas d'accord sur le fait que Renaissance court derrière Marine Le Pen. Justement nous le débat initial on voulait le lancer en disant le RN fausse un débat en disant qu'il va apporter des solutions à une problématique des Français parce que c'en est une. Sauf qu'il n'apporte aucune solution. Et d'ailleurs et le problème de la gauche et des communistes, ça il faut le dire aussi avec autant de rigueur et de vigueur, c'est qu'à l'Assemblée nationale en s'alliant avec les Républicains, ils savaient très bien qu'on allait revenir sur la version du texte au Sénat qui était on ne peut plus beaucoup plus dur que celle qu'on avait fait passer à la commission des lois.
On aurait pu retirer le
projet.
Il y a une motion de rejet. Comme il y a une motion de rejet avec LR, avec les forces de gauche et avec aussi le RN, la motion de rejet a été rejetée.
Qu'est-ce que vous répondez?
Alors vous saviez que ça allait
revenir dans ce projet.
En fait, il fallait absolument voter ce texte de loi. Il fallait être d'accord. Il fallait être d'accord de fait.
S'il vous plaît,
ça veut dire qu'il y a un opportunisme.
Redis.
Il y a un opportunisme politique dans la mesure où vous avez voté cette motion de rejet au même titre que
le LR,
que le Rassemblement National ou le Front National. Je pense que cette appellation vous fera pas ne vous fera pas moins plaisir. Et puis là maintenant vous élevez un petit peu la voix pour critiquer les uns et les autres. Finalement, je veux dire, il y a une forme de compromission aussi de la gauche là-dessus.
Ça fait des mois que vous courez après Marine Le Pen. Je suis désolé. Tout le monde le dit. Il n'y a pas de problème.
La gauche, ça fait des mois qu'elle court derrière Mélenchon.
Ok, pas de souci. Mais depuis des semaines et des mois, nous, on s'est battus depuis le début contre la réforme des retraites.
Et on l'a entendu, Fabien Roussel.
Le projet immigration, le gouvernement savait qu'il n'avait pas la majorité.
La droite
il
a dit, a toujours
il
a dit, été
il n'avait pas la majorité. Attends, deux secondes.
Vous m'avez coupé. La droite il n'avait pas la majorité. Non. Pour une réforme sur l'immigration, toujours.
Oui, mais toujours. Mais elle n'a jamais fait à ce niveau-là.
La question.
Elle n'a jamais fait à ce niveau-là. D'accord, mais même Nicolas Sarkozy, votre ancien président de la République, il l'a pas fait à ce niveau-là.
Vous l'écoutez ?
Mais parce qu'il y a une évolution au niveau des préoccupations des Français sur ces questions-là. Je suis pas en train de dire qu'il faut absolument un projet de loi immigration dur, mais il y a un compromis à avoir malheureusement pour tendre vers un projet de loi qui fait un peu plus consensus. Et c'est à ce titre d'ailleurs que les Républicains ont adouci certaines mesures.
En supprimant l'aide médicale.
Ils l'ont pas supprimé, ils ont proposé quelque chose pour remplacer l'aide médicale.
Bien sûr.
L'aide d'urgence.
Il faut faire en même temps.
C'est pas une suppression, c'est une proposition qui est différente.
Oui, comme
on va proposer aussi quelque chose qui va agir.
C'est la trahison historique de la gauche qui, à force de nous promettre un grand changement, une grande modification, une grande révolution,
refusent faire dur en même temps. Ils ont réuni l'extrême droite
sur
les sujets.
Aujourd'hui, ce qu'ils ont permis, ils ont enfanté.
Il y a combien de trahisons du côté des macronistes?
Là, il faut être.
Ils ont réuni l'extrême droite et l'extrême gauche. C'est un exploit pour la politique.
Pour l'histoire de la politique. Il a enfanté un texte qui est encore plus dur que celui qui refusait.
Pas du tout. Il fallait rejeter ce
qu'il fallait faire. Il fallait accepter d'office le texte. Il fallait voter. Et vous appelez ça la démocratie?
Non, ça venait au débat.
Mais il n'y a pas de débat. On voit bien qu'il n'y a pas de débat parce que de toute façon,
non, mais je reprends la main parce que sinon vous savez quoi, c'est celui respecte juste. Non, il faut juste respecter celui qui vous écoute. C'est s'appelle les auditeurs. Problème, c'est que si vous n'êtes pas audible, le débat n'a plus lieu. On marque juste une courte pause.
Les traducteurs aussi, il faut les écouter.
Une courte pause, messieurs. Non, mais il est très intéressant le débat et il mérite évidemment qu'on s'attarde là-dessus. Je voudrais ouvrir l'antenne, messieurs. 0153483000. Je recevrai Elias du 78. Je ne sais pas de quelle ville. Nous appellent. Et il y a aussi les autres au 0153483000 parce que je voudrais aussi les entendre. Qu'est-ce qu'ils en pensent et comment ils mesurent tout cela? À tout de suite, ne bougez pas, restez avec nous.
Les informés reviennent dans un instant. 19h-20h. Les informés présentés par Adil Farkan sur Beurre FM.
Oui, les informés 19h20 précisément avec Farid Aïdaïk, Merwan Mehoubi, avec Ergun Topaslan et avec Rudy Kazi. Vous savez quoi? Les auditeurs ont la parole. C'est parti.
Les informés vous donnent la parole.
Et oui, effectivement, ils ont la parole. C'est Elias qui nous appelle du 78. Bonsoir, Elias.
Bonsoir.
Vous nous appelez de quelle ville précisément? Qu'est-ce que vous faites dans la vie?
Plaisir.
Et vous faites quoi dans la vie, mon cher Elias?
Je suis chargé d'affaires dans une société de bâtiment.
Chargé d'affaires. On vous écoute. Allez, c'est parti.
Un très joli parc à plaisir.
J'ai voulu intervenir sur tout ce qui est éducation et tout, mais le sujet aussi de l'immigration, ça m'intéresse parce que personne aujourd'hui peut nier que l'immigration contribue et positivement à la société. Mais le problème, c'est quand on veut. Bon, ça c'est une chose et j'ai voulu bien intervenir sur le sujet de l'éducation. Moi, j'ai 3 enfants. Sont deux qui sont un maternel et l'autre, l'école primaire, on va dire, et un, c'est sa première année, 6e année, donc sa première année au collège. Et je peux vous dire que je suis inquiet, très inquiet, par rapport au niveau de mes enfants.
Pourquoi vous êtes inquiet, mon cher Elias? Pourquoi?
Parce que moi, je fais un grand effort et chaque jour, je fais le devoir avec mes enfants. Et là, je trouve que il y a un sujet à traiter. C'est nous, les parents, qui sont en train de élever le niveau, parce que sinon ils font rien. J'ai l'impression qu'ils font rien et que le programme il est vide au fait.
Vous êtes d'accord avec ce qu'il dit? Vous êtes d'accord avec ce que dit Elias, Rudy Kazi?
Sur l'autorité, bien sûr. Moi, j'ai 2 enfants au collège et quand ils me racontent des histoires de leur école. C'est juste hallucinant. Moi, je peux vous raconter.
Donc, vous êtes en train de nous confondre. On va laisser quand même juste finir Elias, comme ça je le libère. Allez-y, Elias, finissez.
Et en fait, est-ce que vous connaissez, c'est qui aujourd'hui le. Bon, vous connaissez tous, qui est le ministre de l'Éducation aujourd'hui?
Heureusement.
On le connaît trop bien, malheureusement.
Oui. Donc, si vous voulez, il a quel âge? Il a 30 ans, 34 ans. Et ce jeune, c'est pas la peine qu'on rentre dans les détails, donc il n'a jamais fait d'école primaire en France. ils sont pas ces gens-là. Voilà,
ça veut rien dire,
ils
vont dire ce que vous dites.
Non. Laissez-moi finir. Donc, je sais très bien de quoi je parle. Donc, l'éducation française est en danger aujourd'hui. Aujourd'hui, comme on parle à quelqu'un qui, voilà, aujourd'hui, les Français se plaignent de notre président, voilà, Macron, avec le tour, à ce que je lui dois. Donc, mais, donc, on va lui dire, monsieur, voilà, moi, j'ai peur pour l'avenir de mes enfants. Mais monsieur Macron, il va pas savoir ce que vous dites. Il va pas, parce que monsieur Macron, il n'a pas d'enfants. Donc, c'est pas un problème. Il y a beaucoup de monde qui n'ont pas d'enfants. Mais aujourd'hui, on ne peut pas se plaindre. D'aller voir le président dire voilà,
j'ai. Mais vous rendez compte ce que vous êtes en train de dire, Eliès? Parce que c'est les. Non, mais c'est quand même. Non, mais attendez.
C'est vrai, au fait.
Arrêtez, Eliès, vous êtes chef chargé d'affaires, vous pouvez peut-être tenir ce discours sur l'antenne de désinformer, s'il vous plaît. Franchement, Eliès. J'ai le porte-parole de Renaissance qui est en train de me dire, mais comment on peut laisser passer ça?
Mais c'est vrai, au fait, c'est vrai, comment vous voulez que quelqu'un. Moi, par exemple, vous êtes à l'interne.
Ergun va vous répondre. Ergun Toparslan.
D'accord. Je suis pas certain qu'il faut absolument avoir un enfant pour un avis sur la politique de l'éducation nationale de notre pays.
Imaginez sinon.
Comme je suis pas certain qu'il faut être pauvre pour comprendre les sujets liés au social dans notre pays, donc je suis un peu surpris de ce commentaire. Mais pour autant, conscient aussi des difficultés que connaît notre système d'éducation, j'ai l'impression que Macron, lors de son premier gouvernement, a fait un maximum, notamment avec le dédoublement des classes aux écoles primaires. Aujourd'hui, il y a un programme sur lequel il a été élu, qu'on essaie de mettre en œuvre, mais il y a des mutations et des changements aussi générationnels qu'on constate, qui sont de plus en plus accablant, et je pense qu'il a raison d'être inquiet et de mettre la priorité sur l'éducation nationale. En tout cas, nous, ce qu'on essaie de faire, c'est au maximum d'augmenter le budget. C'est le budget, on a le plus gros budget d'éducation nationale sous la 5e, si je me trompe pas. Il y a eu des critiques.
Pour quel résultat? C'est grave, parce que voilà, c'est ça.
Pour quel résultat? Ça, c'est un vrai débat.
On nous dit on met l'argent sur l'éducation nationale. Gabriel Attal arrive en responsabilité. Qu'est-ce qu'il parle de la robe, la baya? Comme si c'était le problème. Urgent de l'éducation nationale.
Je comprends, vous voulez parler d'aucun sujet qui fâche. Votre électorat, mais à un moment donné, il y a des problèmes dans ce pays.
Attendez, ou pas? Oui, mais laissez-moi parler deux secondes.
Mais
quand
au-delà
même.
De la DIA, etc.
Au-delà de ça, moi, ce que je vois, ce que je constate, c'est qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus dans les écoles en Seine-Saint-Denis où il n'y a pas de remplacement des enseignants. Ça veut dire qu'il y a des élèves où en face il n'y a pas d'enseignants.
Mais c'est pas le sujet.
Oui, mais c'est pas le sujet. Non, mais on répondait
au
sujet.
Je vais libérer Eliès.
Et juste pour terminer, il n'y a pas d'infirmière, il n'y a pas d'assistante sociale, mais on nous dit tout va bien.
Mais le problème, c'est l'immigration. Et le problème, c'est l'immigration. Forcément.
Ça n'a bien aucun problème.
Qu'est-ce que vous nous dites? Attendez, qu'est-ce que vous nous dites, Eliès?
Je veux dire un truc, mais je vous jure. J'étais toujours optimiste. J'ai toujours, voilà, j'ai voulu, voilà. Et la France, c'est quelque chose pour moi. Franchement, je suis un Tunisien, mais la France, c'est un pays que je prendrais des armes pour le défendre. Et je vous jure, je parle sérieusement. Mais aujourd'hui, je m'inquiète trop. Je m'inquiète parce que là, il y a quatre trucs pour, voilà. Pour
en tout cas, on l'aura compris, effectivement. Vous faites attention, un constat, effectivement, voilà. qui permet de dire qu'aujourd'hui, la situation peut, en tout cas, nous amener à une préoccupation à l'avenir pour les enfants. Non, mais là-dessus, c'est un constat qui est partagé par l'ensemble des débatteurs qui sont sur le plateau, Eliès, effectivement, et vous avez raison, vous, père de famille, de vous en préoccuper. Eliès, merci infiniment d'être venu depuis plaisir. 01-53-48-3000, je prendrai d'autres auditeurs tout à l'heure. 01-53-48-3000. Il faut qu'on avance, messieurs. En tout cas, la loi immigration, vous savez, on le saura tout à l'heure, peut-être certainement très tard dans la nuit, hein, c'est ça.
Ça ne s'avérera pas les 2h du matin, je pense. La commission mixte paritaire arrivera à aboutir aujourd'hui. Maintenant, le sujet, ça sera le deuxième volet à l'Assemblée nationale avec le vote demain. Et au Sénat.
De toute façon, ce qu'on peut dire là-dessus, c'est que le projet de loi en question ne va pas énormément changer par rapport à ce qui est sorti du Sénat. Parce que ce qu'il faut dire, c'est qu'à la commission mixte paritaire, il y a une majorité d'élus LR et Renaissance. Donc l'objectif pour Renaissance, c'est de trouver un compromis avec les LR. Donc il va y avoir une coloration beaucoup plus LR sur ce projet. Donc et il y a une condition qui est posée quasiment pour que ça se fasse
Tout ça nous amène tout droit, paraît-il, que depuis quelques jours, à l'Élysée, ça commence évidemment. Le chef de l'État, Emmanuel Macron, commence à s'inquiéter d'abord concernant l'exécutif, mais surtout, il voit déjà la suite concernant cette loi d'immigration. On parle d'un remaniement d'ampleur, Ergun Toparslan. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, un remaniement d'ampleur? Parce qu'on parle, figurez-vous, de ce remaniement d'ampleur au sein de l'exécutif, on parle du gouvernement, qui est pointé, c'est-à-dire qu'on ferait un grand ménage, mais surtout, au château, à l'Élysée.
Si le remaniement aurait dû avoir lieu, si c'est,
en tout cas, ce qui pourrait nous intéresser, moi, m'intéresser, ce sera le remaniement du gouvernement, et celui-ci n'a d'intérêt si on arrive à aboutir à une majorité à l'Assemblée nationale. En réalité, soit les LR intègrent une majorité, ou pas.
Mais remaniement, ça sous-entend quelque chose, parce que le chef de l'État veut jouer tactiquement quelque chose.
Justement.
C'est-à-dire qu'il veut intégrer plus de républicains. Bah, c'est ça qu'on comprend.
Si c'est ça, ça serait un remaniement d'ampleur.
C'est ce que je voulais entendre de votre bouche.
Non, bien sûr. Après, si c'est pour changer en sein de notre majorité, la majorité présidentielle n'a pas la majorité absolue à l'Assemblée nationale actuellement. Donc, à part un changement de l'organigramme du gouvernement, il n'y aura pas d'impact politique direct s'il n'y a pas les LR qui intègrent
ça sert à rien. Adil, ce qu'on voit aujourd'hui, franchement, ce qu'on voit aujourd'hui, on l'a dit à plusieurs reprises.
Dites-nous.
C'est un gouvernement de droite. On l'a dit depuis des semaines, des mois, c'est un gouvernement de droite. Et c'est pour ça que...
Lorsqu'ils ont un projet de loi sur la fin de vie, c'est pas un gouvernement de droite.
De gauche. Un peu de centre, un peu de gauche, un peu de droite.
Mais Adil, lorsqu'on a un projet de loi sur la fin de vie, on n'est pas un gouvernement de droite. Un projet de loi sur la fin de vie, c'est un gouvernement de gauche.
Est-ce que je peux terminer?
C'est des lois sociétales.
Sinon, moi, je m'en vais. Il n'y a pas de souci. Si je ne peux pas parler un mot, c'est bon.
On réagit comme...
Non, il n'y a pas de souci. Non, je vous laisse parler. Je vous dis.
Vous prenez la parole ou vous parlez fort?
Non, c'est pas un souci. Je veux dire.
Ne vous offusquez pas.
Non, c'est pas ça. Je m'offusque pas. C'est parce que ça dérange. Alors, comme ça dérange, on veut me couper la parole. Mais j'irai jusqu'au bout.
Alors, vous allez le laisser parler.
Mais j'irai jusqu'au bout. C'est un gouvernement de droite. Un gouvernement de droite. Et on le voit bien. Sur le projet de loi immigration, il ne cherche pas à aller vers la gauche. Pourtant, apparemment, il y a quelques députés qui sont de gauche, du SOP, et même Elisabeth Borne, etc. Ils vont du côté droite. Parce que c'est un gouvernement de droite. Et on l'a bien vu à plusieurs reprises. Sur la réforme des retraites, sur pas mal de sujets, ils sont de droite. Et juste pour terminer, on peut pas débattre avec ce gouvernement-là, parce que depuis qu'il est au gouvernement, on a passé 20-49-3. 20-49-3. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de démocratie.
Quand
il
n'y
a
plus de démocratie,
c'est ce que dit l'extrême gauche, effectivement.
Farid, c'est un gouvernement à l'image de ce président. Il n'est ni à droite, ni à gauche. Voilà. Il n'a pas de colonne vertébrale. Il n'a aucun sens.
Juste.
Il essaye d'aller à droite, à gauche. Il essaie de contenter les uns et les autres. C'est à l'image de ce président. Il va nulle part.
C'est pire que s'il était à droite.
Ce président
a justement été élu.
Il n'a pas été élu. Il n'a jamais
été élu. Si vous remettez en cause des élections
présidentielles, Ergun, ton patient.
Justement, en France, il y avait une aspiration un peu sortir de ce schéma que vous nous imposiez systématiquement à être une fois de droite, une fois de gauche, qui faisait que le pays était paralysé.
C'est la démocratie, c'est pas la démocratie.
Personne n'impose rien. Des idées de gauche et essayer de faire avancer le pays. C'est ce qu'il essaie de faire. Et sur cette loi immigration, même si ça vous dérange, même si ça vous convient pas, il y a des volets qui vont pour l'intégration. Et l'intégration, je suis désolé, ça vaut pas. L'intégration pour mieux intégrer les ressortissants étrangers dans notre pays, il y a des propositions qui sont faites.
Lesquelles?
Il faut regarder, par exemple, sur l'apprentissage des cours de français obligatoires.
Oui, ils sont déjà.
Ils sont déjà. 01 53 48 3000. Les informés vous donnent la parole.
Vous avez entendu la sonnerie? Ça, c'est les priorités. Je vais aller chercher Sarah de Paris. Bonsoir, Sarah.
Bonsoir.
Qu'est-ce que vous faites dans la vie, ma chère Sarah?
Je suis radiologue.
Radiologue, docteur. Bonjour, docteur, alors. Allez, Sarah, on vous écoute.
On vous écoute
parce que ça débat ici. Hein. Allez-y.
Voilà, parce que je voulais répondre au monsieur qui était inquiet pour ses enfants.
Oui, Elias.
Je partage énormément son constat. Moi aussi, j'ai deux garçons qui sont au collège et je suis très, très, très inquiète. Parce que ce que propose l'école, c'est hallucinant. Mmh. En plus des programmes, déjà, qu'en maths et en français, c'est pas tout à fait ça. Parce que moi, mes enfants, au début, ils étaient en école privée. Et après, comme ils étaient dans une école hors contrat, donc j'étais obligée de les mettre dans une école publique. Mais je suis catastrophée, quoi. Donc je suis obligée de leur faire des cours à la maison parce que les cours ils sont nuls et pourtant on est dans un quartier qui n'est pas misérable, on n'est pas dans le 93 ou on est dans le 8e arrondissement et je vous assure que c'est pas bon.
C'est pas bon.
Et en même temps, on introduit des la sexualité, l'hypersexualité, c'est hallucinant. Alors qu'ils n'ont pas avancé en maths et en français, on leur a introduit, alors qu'ils sont tout à fait jeunes, ils n'ont pas leur psychisme ne
Alors, docteur, comme Elias, vous êtes inquiète et effectivement, vous dressez un constat qui est partagé. Ma chère Sarah, il y a beaucoup énormément d'auditeurs qui nous appellent. J'aimerais bien distribuer la parole et donner peut-être un peu plus la parole, si vous permettez.
J'aimerais bien qu'ils répondent par rapport à ça, par rapport à l'hypersexualité qu'ils veulent imposer aux élèves et qui veulent vraiment bousiller le cerveau des enfants.
Vous adressez à qui? À Monsieur Ergun Torpaslan?
Voilà,
c'est lui, il est là, c'est lui qui prend cher aujourd'hui. Monsieur le porte-parole, allez-y. Elle vous pose une question, Sarah.
Bouc émissaire.
Non, mais elle l'a posée sur l'hypersexualité à l'école.
L'idéologie, finalement.
On peut comprendre que cela dérange, mais encore une fois, vous savez, notre société, elle a de l'intérêt parce qu'elle est diverse. Et aujourd'hui, les sujets de sexualité sont un grand nandit de notre politique d'éducation. Et il est vrai que les avancées sociales, cela fait partie de certaines avancées sociales qu'on souhaite apporter. Donc que ça plaise, que ça ne déplaise, je peux le comprendre. Qu'il y ait un débat autour, je peux le comprendre aussi. Mais à un moment donné, il faut aussi intégrer le fait qu'on n'est pas dans une société où on a un certain type, une certaine forme d'éducation, où on peut esquiver l'éducation sexuelle, si je peux me permettre de parler comme ça, en dehors de l'éducation nationale.
Ça Merci devrait être réponse. Entre les mains des ouais. parents, Merci. Premièrement, et deuxièmement, Merci. L'école a beaucoup à faire sur le fait de remonter en fait le niveau des enfants. Beaucoup, le classement beaucoup, PISA est encore accablant.
Je vais tâcher, parce qu'on a beaucoup d'appels, hein. Vraiment le standard comme tous les soirs, au 0153 48 ouais. 3000. Il y a Hakim du 92 qui nous appelle. Qui nous appelle du 92, on l'accueille tout de suite après. Et je voudrais qu'on avance hein, sur ce fameux remaniement. Hein. J'ai pas entendu évidemment ouais. toutes les sensibilités autour de ce plateau. Et on parlera aussi, on ira direction. Alors soit je vous laisse le choix, hein, le soin de soit les Yvelines avec ce prof, ou alors direction Gaza. Quand vous voudrez. A tout de suite, ne bougez pas, restez avec nous.
Les informés reviennent dans un instant. 19h-20h, les informés, présentés par Adil Farkan sur Beurre FM.
Et autour de ce plateau, vous savez, Topaslan, le porte-parole de Renaissance, Rudy Kazi, qui est un élu de Saint-Germain, les Arpajons, l'élu de Pierre Fitte, député suppléant mais également élu, c'est Farid Aïd, et enfin le journaliste Merwan Mioubi. Oh là, j'ai eu un... Hakim, bonsoir Hakim, du 92, oui, et ensuite bonjour. Après on parlera... bonjour, comment ça va?
Très bien, je vais faire vite parce que je suis en voiture, donc je m'arrête. Donc, ouais, Hakim.
Quelle ville 92 ?
Je suis du Plessis.
Plessis, vous faites quoi dans la vie, mon cher Hakim ?
C'est dans le commerce.
Le commerce, allez, on vous écoute, mon cher commerçant.
Bon, rapidement, sur les deux sujets, hein, donc sur le sujet de l'éducation, j'ai pu entendre, je rejoins un petit peu ce qui a été dit auparavant, même si je pense que l'on s'intéresse beaucoup aux petits sujets, pas aux gros sujets. Les gros sujets sont qu'actuellement, l'éducation a baissé en France, mais c'est vrai depuis ces 30 dernières années. Je travaille beaucoup à l'international, c'est vrai qu'aujourd'hui on veut se comparer à Singapour, du moins on veut devenir le Singapour, je peux vous dire qu'on y est très 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 loin, et je ne sais pas comment on va y arriver. Donc je pense que ça passe peut-être par augmenter les salaires de nos chers professeurs, parce qu'aujourd'hui d'aller dans le privé ou dans le public, le niveau est quasi identique, et aujourd'hui c'est vrai que le privé, ça devient une machine, ça en devient un business, donc aujourd'hui c'est pas aussi cher que ça, mais aujourd'hui le privé, pour y avoir mis les enfants... c'est 30 à 35 élèves qu'on a par classe dans le privé. Donc voilà sur l'éducation, donc j'aimerais bien un peu que ça débatte pour savoir un petit peu réellement quels sont les changements qu'on peut mettre en place.
Sur la loi immigration, vous dites quoi ?
Et sur la loi immigration, moi, sans rentrer dans la loi immigration, moi j'aimerais bien qu'on débatte de dire aujourd'hui on a énormément d'immigrés légaux, illégaux qui sont arrivés en France. On en voit énormément dans la rue actuellement. Déjà, comment on gère cela ? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on parle pour le futur, etc. Mais moi j'aimerais bien savoir aujourd'hui comment on gère. Dernièrement, j'étais pas loin de Porte d'Aubervilliers. J'ai été très choqué par ce que j'ai vu, par tous ces migrants qui étaient là. Je suis pas en train de dire qu'il faut les chasser, il faut les garder. Je prends même pas position là-dessus. Mais je dis juste qu'on ne gère pas la situation. C'est-à-dire qu'on se ferme les yeux. Je ne sais pas si c'est une loi d'immigration qui va faire quoi que ce soit. Mais aujourd'hui, la réalité, c'est qu'on a déjà un certain nombre d'immigrés qui sont en France et qu'on ne sait pas s'occuper. Déjà, ma question, c'est comment on fait pour sortir tous ces gens de la rue?
Merci Hakim. On va tâcher de vous répondre, évidemment. Merci pour votre appel et merci ici aussi, pardon, pour votre fidélité. Marwan Mioubi.
Ce qui est intéressant sur ce qui est dit là au sujet de l'immigration, c'est que ce sont surtout des immigrés économiques. Ils sont pas nombreux ceux qui fuient des terrains de guerre. Ce qu'il faut faire, c'est traiter directement avec les pays africains, les pays d'origine de ces gens-là. Il faut arrêter de vouloir traiter ça au niveau national. Ça ne se fera pas. Et on peut faire des kilomètres de lois. On peut essayer de voter toutes les lois qu'on veut, on ne pourra pas les appliquer parce que ça se joue au niveau européen et en plus parce qu'il faut dialoguer avec ces pays d'où viennent ces gens.
Donc vous dites qu'il faut rouvrir un dialogue.
Et bien sûr.
Qu'est-ce que vous dites, vous, Ergun Torbaslan, à Hakim?
Je suis pas à Hakim et à Marwan aussi, je suis pas à l'aise sur le fait de parler tout de suite de l'immigration africaine parce que tout à l'heure, quand on parlait sur la suppression de l'aide à l'hébergement d'urgence, ça concerne aussi beaucoup d'immigrés qui viennent de l'Ukraine, qui fuient la guerre dans notre pays. Et aujourd'hui, les Républicains, moi je suis pas certain qu'ils puissent assumer ça face aux Ukrainiens, de leur dire que c'est nous qui avons proposé la suppression de l'hébergement d'urgence pour les immigrés qui n'ont pas de papier parce que on était dans une poussée populiste. Donc il faut pas limiter le débat au sujet africain. Il y a un sujet par rapport à l'application des OQTF.
Non, mais il y a des autoroutes, sur la Méditerranée.
On va être très sincère avec vous, il y a des pays, quand ils voudront pas qu'on applique les OQTF, ils voudront pas. Voilà. Maintenant, l'idée, c'est de comprendre aussi ce que vous avez dit, et c'est ce qui est juste, c'est qu'on est dans un monde inégalitaire, on a des croissances qui sont différenciées, on va avoir de l'immigration climatique qui va venir encore plus aussi envers nos pays, et il y a un sujet qui nous concerne
sauf
aujourd'hui.
En France,
c'est un sujet pour moi franco-français avant tout.
Je voudrais pas relancer le débat, mais effectivement, quand on écoute nos auditeurs, évidemment, on voit bien que leur préoccupation, c'est quand même l'éducation, préoccupation, c'est les enfants, leur préoccupation, et c'est ce que vous disiez, vous, Faridaï, tout à l'heure, c'est-à-dire que, au lieu de traiter de la loi immigration, eh bien traitons des sujets qui sont des sujets de politique quotidienne.
Bien sûr, Adil, on le voit bien depuis des semaines, des mois, on discute avec la population, on est élu dans des villes.
C'est ce que pensent aussi les habitants de Pierrefitte.
Les habitants de Pierrefitte, qu'ils soient de droite, de gauche, on leur dit pas quand on discute avec eux, t'es de droite, t'es de gauche, etc. C'est des habitants et ils nous disent leurs préoccupations. Et leurs préoccupations aujourd'hui, je vous le dis, c'est le travail, c'est le pouvoir d'achat, c'est la comment santé. Ils vont faire en sorte, c'est la santé, c'est comment ils vont faire en sorte que leurs enfants puissent être bien éduqués, qu'ils puissent aller à l'école et qu'il y a des enseignants en face, etc. C'est toutes ces questions-là. C'est comme tu disais tout à l'heure, c'est le volet économique. Parce que c'est vrai que quand on résout une bonne partie du volet économique, on résout. Alors je ne vais pas dire que quand on a résolu ça, on a tout résolu. Je ne dis pas ça. Mais je vous dis qu'il ne faut pas qu'on en fasse
d'une
politique générale au niveau national.
Juste un petit élément avant qu'on traite les autres sujets. Vous savez, en ce moment même, des milliers de personnes manifestent contre le projet en ce moment même dans les rues de Paris concernant donc cette loi immigration. Rudy Kazi, on passe au second sujet, on va aller direction les Yvelines.
Ah, mais ce qu'on peut dire, franchement, peu importe. Il est vrai que dans certaines zones, certaines banlieues parisiennes, etc., c'est un sujet, l'immigration n'est pas forcément un sujet de préoccupation, mais c'est quand même le cas dans d'autres territoires de France. Et je pense qu'il ne faut pas le balayer d'un revers de la main. Et je pense que les politiques finissent aussi par le payer. La politique qu'au travers en fait de son territoire en fait. Non, on a une France qui est avec une population qui a des points de vue qui sont pas forcément
qui se droitisent
89 députés RN mais qui sont pas forcément hétérogènes en fait quoi. Donc il y a un vrai sujet en fait à se poser à réaliser en fait que il faut prendre en compte toutes les sensibilités et en l'occurrence d'après les sondages, effectivement l'immigration comme le pouvoir d'achat, comme la sécurité, comme la hausse des prix, c'est un sujet de préoccupation. Maintenant, il ne faut pas en faire un totem politique que d'avoir que l'immigration. Il faut traiter l'immigration, il faut aussi traiter les questions de pouvoir d'achat.
Et
mais à un an de l'élection européenne, forcément que ces questions vont revenir.
Et ben on va traiter un sujet qui concerne le quotidien, tiens, justement. C'est ce professeur menacé de mort dans les Yvelines. La garde à vue de l'élève a été prolongée sur Instagram. Cet élève, ce lycéen des Yvelines, du Chesnay, Rocancourt, a proféré des menaces de mort contre son professeur de mathématiques. Alors, que s'est-il passé? Franchement, je m'interroge. Qu'est-il passé par la tête de cet adolescent?
Mais c'est un fou.
On peut pas dire que c'est un fou. C'est
le résultat de nombreuses années de déliquescence de l'éducation nationale, de tout ce qu'elle incarnait. Il y avait un temps où le professeur, il avait quasiment la figure du père ou de la mère. On n'osait pas le ton, on n'allait pas au au-delà de ce qui avait été dit ou décidé. Et quand ça arrivait, bah, les parents recadraient. Donc certes, il y a un problème au niveau des parents, mais aussi un problème du fait que l'éducation, l'école maintenant, c'est la récréation.
Je suis d'accord.
Il y a pas de problème. On fait un tour de table, j'ai dit.
Pour dire aussi que c'est vrai que l'éducation nationale, il faut que l'éducation se reprenne en main. Et comme il faut qu'ils se reprennent en main, il faut aussi qu'ils travaillent. Il y a des enseignants qui ils sont formés depuis des années pour être enseignants. Et là, aujourd'hui, qu'on voit une démultiplication d'enseignants contractuels. Ils ont un stage de 5 jours. 5 jours, ils sont devant les élèves. Mais c'est dur de gérer une classe parce que c'est 25 individus différents, c'est 25 problématiques différentes.
Et on peut faire un parallèle avec l'hôpital. C'est la même chose avec la santé.
Et c'est ça qu'il faut prendre en compte. C'est pour ça que je pense qu'il faut faire plus d'éducation. Il faut faire plus de moi j'étais pour faire des cours de droit civique, travailler sur les droits et les devoirs, responsabiliser les jeunes, parce qu'on peut les responsabiliser, mais il faut aussi un dialogue avec eux. Et ça peut pas être que juste il y a un problème, soit c'est le jeune qui est fou, soit c'est l'enseignant, il a un problème, parce que il faut aller au-delà de ça.
Effectivement,
quand je parle de la folie du jeune, je l'ai pas inventé, je veux dire, je le connais pas ce jeune, je parle de la folie au fait que c'est le profil psychologique qui a été avancé dans ce cas. Donc ça veut dire que le petit risque d'être placé par rapport à son profil psychologique. Déjà, ça évoque
une chose. Le jeune homme n'a pas d'antécédent judiciaire.
Non, il en a pas. Donc ça nous évoque déjà une chose, c'est que parfois il y a un profil psychologique adressé aussi sur certains de nos enfants collégiens, dès qu'ils sont en capacité de se munir d'un couteau. Il y a aussi un travail à faire, et malheureusement, comment on peut faire ce travail quand effectivement l'éducation nationale a la position qu'elle a et que ça régresse depuis 20, 30, 40, 50 ans. Mais il y a plein d'erreurs qui ont été mises, qui figurent aux impéries ici qu'on connaît aujourd'hui par rapport à l'immigration, par rapport à l'éducation nationale. Et jeter la pierre sur le gouvernement d'Emmanuel Macron, je pense que c'est assez aisé de le faire. Il y a eu trois ministres de l'éducation en l'espace de 2 ans. À un moment donné, ça veut dire qu'il n'y a pas une colonne vertébrale claire et nette sur l'éducation. Entre Blanquer, Diaye, oui, mais le changement, il y en a eu trois
Il a raison.
Oui, mais à quel moment il est parti, Blanquer?
Quand il a perdu la législative.
Quand il a perdu la législative, c'est à ce moment-là.
Voilà, dans ce cas, c'est en
2022. Non, mais là, c'est deux.
On est en 2023. En 3 ans, on a eu deux changements.
Et M. Ndiaye, Pape Ndiaye.
Mais voilà, donc ça veut dire 3 ministres en 2 ans.
Il y a eu un remaniement.
3 ministres en 2 ans, on est d'accord. C'est ce que j'ai dit.
L'autre, il était pendant 4 ans avant, donc vous ne pouvez pas dire 3 ministres en 2 ans.
J'ai bien parlé français, j'ai dit 3 ministres en 2 ans. Donc c'est bien factuel, 3 ministres en 2 ans.
Dans les deux dernières années.
Okay. Oui, d'accord, c'est ça. Et donc, du coup, comment est-ce qu'on peut avoir une colonne vertébrale claire? Moi, je vois qu'une chose, c'est qu'on passe beaucoup de temps sur les questions sociétales, abaya, pas abaya, etc. Mais lorsqu'il s'agit de réapprendre à nos enfants à compter, à lire, et écrire, etc., on n'y est pas. Lorsqu'il faut lutter contre le harcèlement, ça bouge un petit peu, ça frétille. Donc on est vraiment en retard en matière d'éducation, et ça pose toujours aussi la question de l'autorité. Quelle est l'autorité qu'on remet?
C'est surtout ça que je voulais entendre. C'est l'autorité, comment on la place dans tout ça?
L'anecdote que je voulais vous raconter en deux mots.
Rapidement.
J'ai des enfants qui sont au collège, comme je vous le disais. Il y a eu un remplacement l'année dernière dans la classe de ma fille, et le professeur qui le remplaçait, qui était en remplacement, était un professeur qui avait une ligne assez autoritaire, assez dure. Les enfants n'en voulaient pas. Ils se plaignaient aux autres corps enseignants.
Mais c'est pas
enseignants.
Aux enfants de choisir.
Je vous explique. Et le corps enseignant, qu'est-ce qu'il répondait? Il disait, oui, mais lui, on le connaît déjà, vous inquiétez pas, il va pas rester longtemps. Donc, il y a une forme d'abandon d'autorité assumée, même par les professeurs, les instituteurs, qui eux aussi nivellent le niveau des élèves vers le bas. Les professeurs, parfois, sont pas de très bonne qualité.
Pour moi, c'est pas un abandon. Pour moi, c'est une évolution du corps de professeurs qui ressort dans les derniers sondages, notamment lors de la journée de la laïcité.
Une évolution vers le bas.
C'est pas un abandon.
Ils ont critiqué le professeur et ils ont alors que ce professeur avait levé la note des élèves.
Laissez-le parler.
Non, mais il n'y a pas de souci. C'est le débat, mais il faut prendre conscience aussi que au sein du corps des enseignants aujourd'hui, il y a une évolution aussi qui n'est pas qu'une évolution de liée à la formation, qui est aussi une évolution idéologique. Il faut le dire.
Ah ben ça, je suis d'accord.
Tout instructeur, etc., qui est un peu plus sur l'autorité, ça pose certains problèmes. On voit qu'ils ont plus en plus
donc
de mal.
C'est positif alors ?
Ben non, pas du tout.
Ah, parce qu'une évolution, c'est souvent,
mais pour autant, pour revenir au sujet là, c'est ce que disait Victor Hugo, c'est l'école instruit, la famille éduque.
Mais qu'est-ce que vous voulez dire?
C'est pas le cas maintenant.
C'est-à-dire que l'école instruit, la famille éduque. C'est-à-dire
non,
la,
mais
la
je veux dire là, depuis le début de votre prise de parole, qu'est-ce que vous voulez dire? Vous voulez dire on va où? On va où dans ce chemin? Parce que
on fait
le discours du macronisme là.
Le discours du macronisme.
Une évolution.
Vous parlez bien, vous parlez bien.
C'est très intéressant.
À chaque proposition,
en attendant, au classement PISA, ça s'effondre. Ça s'effondre.
Pour dédoubler les classes en école primaire, à chaque fois, les oppositions, elles ont voté contre. Donc moi, je veux bien. Non, moi, je veux bien.
Il y a aucune opposition.
Pas sur les députés.
Eh bien, vous répondez.
Le dédoublement.
Il est député suppléant, donc ça tombe bien.
Le dédoublement.
Les dossiers, il les a tous suivis.
Le dédoublement, on était favorable.
Mais vous avez voté contre.
Non, mais la subtilité du gouvernement.
Alors pourquoi vous avez voté contre?
Non, mais David, la subtilité du gouvernement, c'est quoi? C'est de dire
qu'on
fait des dédoublements de classe. Mais qui paie? Ah, c'est plus l'éducation nationale, c'est les collectivités locales.
Et
parce qu'il faut quoi? Il faut du matériel en plus, il faut des salles en plus, etc., etc. Mais là, l'éducation nationale a dit non, c'est pas nous. Comme la gestion
donc, ils
des logos,
mains en disant,
c'est l'école maternelle et élémentaire, c'est les collectivités locales.
C'est sûr
locales,
que quand on voit l'état des collèges en Seine-Saint-Denis, on comprend qu'il leur reste plus d'argent pour acheter du matériel en plus.
Mais quand on veut vraiment l'égalité. On veut vraiment l'égalité dans les écoles. Il faut donner les mêmes moyens. Qu'on soit dans le 92 à Puteaux ou à Boulogne, il faut donner les mêmes moyens qu'à Clichy-sous-Bois ou à Bordeaux.
Alors il répond.
Les moyens à la Seine-Saint-Denis pour gérer ses collèges, on les a donnés. L'état des collèges en Seine-Saint-Denis, parlons-en.
Non, bah,
et c'est pas nous qui gérons la Seine-Saint-Denis et les collèges de Seine-Saint-Denis.
Bon,
donc
allez,
le dédoublement des classes. Justement, il est où le département Seine-Saint-Denis?
Merci monsieur. On arrive déjà au terme de cette émission.
Très bien.
Merci Ergun Tompaslan. À très bientôt. Porte-parole de Renaissance, à très vite, bien sûr. Sur l'antenne. Rudy Kazi, l'élu de Saint-Germain-les-Arpajons. Très vite.
À très vite.
Merwan.
Oui.
À très vite.
Merci Adil, à très vite.
Il voulait checker.
Merci à tous.
Mais oublie, ouais. Entre journalistes, il check. Monsieur le député suppléant, il est
venu. Merci Adil.
C'est trop chargé aujourd'hui. Hein.
Non, ça va, j'étais tranquille.
C'est Renaissance qui vous avait mis dans cet état.
Ah,
je crois
ça motive.
Que c'est
motive.
C'est Renaissance, ça
fait. Oui, il y a des bisous.
Quand il y a des macronistes, ça motive.
Il faut pas être zèle comme ça.
Solal à la réalisation, merci.
Il a entendu Renaissance.
C'est ça, pas ça. Il a craqué. Solal à la réalisation, Bill Adnedman Time Sport, 20h-21h, Vanessa 21h-23h, Kim, demain matin et quant à moi demain, avec autant de plaisir mais surtout, on ne lâche rien les amis, allez à
on
demain.
On ne lâche rien.
Retrouvez les informés tous les jours de 19h à 20h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.